Il faut le progrès, il faut pas la pagaille.
Notre village au fil du temps. Un épisode proposé par Thérèse Loisel. Troisième épisode de notre série consacrée à la guerre. Aujourd'hui, la reconstruction de Fontenay-le-Marmion. Rappelons qu'après de lourds combats, Fontenay fut définitivement libéré le 8 août 1944. Il faut rentrer. Mais dans quel état les réfugiés partis en exode pour fuir les bombardements vont-ils retrouver leur village ? Ils envoient d'abord des éclaireurs pour constater l'étendue des dégâts et s'assurer que les familles peuvent revenir en sécurité. Bonjour Thérèse.
Bonjour.
Alors, quel est l'état des lieux ?
Quelle désolation ! Ce n'est plus qu'un champ de ruines. La plupart des habitations sont détruites ou gravement endommagées. La mairie, l'école, les fermes, le château ne sont plus que des amas de pierres. La nef de l'église est en partie détruite et le clocher endommagé. Des tas de gravats jonchent les rues et des cratères de bombes qu'il faudra combler marquent le sol. La plaine est jalonnée de véhicules militaires abandonnés. Des chars, automitrailleuses, armes, mines, mais surtout de nombreux corps. Détruite à 90%, elle est déclarée comme une sinistrée et recevra donc la Croix de guerre le 11 novembre 1948 pour son sacrifice et sa résilience.
Alors comment se passe le retour pour la population du village ?
Le retour se fait donc progressivement de fin août à début septembre. Car faute de toit, tout le monde ne rentre pas immédiatement. Seuls les 320 sur les 585 habitants que comptait la commune qui sont rentrés s'installent précairement dans les ruines. Il a fallu tout d'abord déblayer et boucher les trous de bombes qui étaient très nombreux. Dans ces débris, ils vivent très difficilement mais courageusement dans des logements défectueux. Sans toiture pour certains, mais aussi sans carreaux, remplacés le plus souvent par des cartons pour se protéger du froid et surtout insalubres à cause des rats. Mais il fallait survivre, donc pour se faire des abris ou pour améliorer l'état de leur maison, les hommes récupèrent tout ce qu'ils peuvent trouver dans les décombres. Du bois, du papier goudronné, de la ferraille. Ceux dont les maisons sont inhabitables trouvent refuge à la ferme dénommée la Dîme, la moins touchée du village. Et d'autres dans le blockhaus construit par les Allemands. Comment allait-on se nourrir ? Car les jardins potagers, remplis de trous de bombes et d'obus, sont loin de pouvoir produire. Avant le débarquement, il y avait 13 cultivateurs dans la commune. 4 seulement sont rentrés, mais ne possèdent plus d'instruments agricoles et ne peuvent plus travailler dans la plaine minée et truffée de munitions non explosées. Des grenades, des bombes, de la poudre en paillettes, rendant le travail de la terre extrêmement dangereux. Les champs sont bouleversés, les arbres, les haies sont rasés, les récoltes sont anéanties. Les chevaux et le bétail aussi ont disparu. Les dangers sont persistants et il y eut des accidents graves et mortels. Mais pour les enfants insouciants, tous ces débris qui jonchent le sol sont un terrain de jeu idéal. Ils montent sur les chars et font des feux d'artifice avec les bâtons de poudre en paillettes en forme de spaghetti.
Alors Thérèse, les habitants et les habitantes de Fontenay-le-Marmion vont devoir se loger dans des abris provisoires.
Oui, car devant cette situation que l'hiver 1945, très froid, rend encore plus pénible, en février, la commune adhère au syndicat des communes sinistrées, et ce, jusqu'en septembre 1946. Elle réquisitionne des terrains pour construire des baraquements, les fameuses baraques Thomas. L'arrivée de ces baraquements permet de reloger les sinistrés et de rétablir les services publics. Une grande pièce de la ferme de la Dîme sert d'école pendant un an. La Suède a apporté son soutien à la France et donne des fournitures et des chaussures aux élèves. L'église est installée dans un baraquement provisoire. La France est désorganisée et manque de tout. La vie quotidienne reste marquée par la pénurie et le maintien des tickets de rationnement. En juin 47, les communes sinistrées sont parrainées. Fontenay par la commune de Gujan-Mestras en Gironde, qui expédia des wagons de bois, des meubles, des vêtements et des couvertures. Attribué à la commune en juin 47, ce n'est qu'au début 49 qu'ont été livrées par bateau les 5 maisons finlandaises. C'était des maisons en bois construites sur un soubassement en béton.
Alors, entrons dans le vif du sujet, la reconstruction à proprement parler des différentes habitations dans le village.
Dès octobre 44, un architecte avait été nommé en vue de la reconstruction de la commune. Mais ce n'est qu'en juillet 47 qu'il est établi un plan d'urbanisme et le projet de reconstruction. C'est une tâche lourde. Il faut d'abord déblayer, reloger, établir les dossiers des dommages de guerre pour enfin reconstruire. Entre-temps, la commune achète des tourelles pour y installer la mairie. En 49, après avoir visité Fontenay, le ministre Jean-Marie Louvel fait débloquer des fonds pour la construction de 24 pavillons. Mais c'est en janvier 1950 que débute donc la reconstruction de Fontenay ainsi que la réparation des maisons endommagées avec l'aide des dommages de guerre et la relocalisation dans le bourg des maisons détruites au Val. Elle est en grande partie l'œuvre de M. V, maire à l'époque de 45 à 75. C'est cette même année qu'est construit le château d'eau, car les habitants étant alimentés en eau par des bornes fontaines publiques moyennant redevance. La reconstruction de l'église, quant à elle, se termine en 1952 et le clocher se dote d'une horloge. Les fidèles vont donc pouvoir regagner leur lieu de culte. Les 150 hectares réquisitionnés pour l'aérodrome sont rendus aux cultivateurs et les fermes détruites sont reconstruites en dehors du village entre 52 et 54. Au lieu dit les 5 fermes, sur la route de Bretteville-sur-Lèze. En juin 53, est formée une société appelée les Castors, qui achète du terrain au sud de la commune en vue d'y construire 19 logements. C'est l'œuvre surtout de l'abbé Cardine, curé de l'époque, qui aide à gérer les travaux et le financement. C'est une association dont les membres travaillent en commun à l'édification de leurs maisons qui seront achevées en 1954. D'ailleurs, une statue de la Sainte Vierge fut baptisée par l'abbé en 1961 pour protéger les habitants de cette rue. Quant au premier groupe scolaire, il est construit en 1954, près duquel est aménagé un terrain d'éducation physique et sportive. Et vu l'accroissement de la population, en 1956 est construit les HLM, dont 20 exactement.
Alors Thérèse, après cette très très difficile période, on assiste à une forme de miracle, un véritable renouveau social.
Effectivement, la vie sociale et culturelle reprend ses droits, car les gens travaillent dur et ont besoin de se divertir. La vie associative va donc se développer et animer notre village. En remplacement du baraquement provisoire, les artisans, avec l'aide des compagnons bâtisseurs, décident de construire une nouvelle salle paroissiale. Les compagnons bâtisseurs, c'est un groupe de jeunes hollandais, allemands et belges accompagnés de leurs aumôniers qui avaient pour mission d'aider à la reconstruction des communes sinistrées pendant leurs vacances. Quant à la partie administrative, elle était toujours confiée au père Cardine. Ces compagnons bâtisseurs participent aussi à la construction de 7 logements pour les habitants qui vivent encore dans des baraquements. D'autres groupes avant eux sont déjà intervenus pour aider les habitants dans divers travaux. Cette fameuse salle paroissiale, elle est inaugurée en 1961 et devient une salle de spectacle appelée le foyer, où se déroulent toutes les manifestations communales, les arbres de Noël, la distribution des prix, et aussi la reprise du théâtre avec la ruche fontenaisienne, ainsi que la projection de films le samedi soir et le dimanche après-midi. Quant à l'association des Compagnons de la Joie, créée en 1958, elle a pour but de rassembler et de faire participer tous les gens du village en organisant des corsos fleuris ou fêtes des fleurs, comme on l'appelait. Les chars, dont celui où trône fièrement la reine entourée de ses demoiselles d'honneur, sont ornés de fleurs en papier confectionnées par les habitants et les enfants. Ils défilent dans les rues, tous plus jolis les uns que les autres, accompagnés de musiciens et de majorettes. Le thème représenté était différent chaque année. Sans oublier bien sûr la fête du village dans les chasses, le dernier week-end d'août à la Saint-Hermès, avec messe en musique, manège et bal, pour clôturer cette journée. C'est donc grâce au témoignage d'Élise Vandamme que j'ai pu relater avec précision cette période.
Ce soir, il y a de la lumière.